Mégaphone.
Vous entendrez rarement quelqu'un louer l'éthique et la conscience écologique de sa banque. C'est pourtant la ligne vers laquelle souhaite s'orienter la NEF depuis sa création. La société lyonnaise se revendique comme l'unique banque réellement éthique de France. Nous nous sommes rendus à Mashup, établissement qui concilie restauration et insertion par l'activité professionnelle. La NEF fait partie de ses financeurs.
Donc, je suis Julien Grébi, je suis le directeur de Mashup.
Moi, c'est Marine Lemoine et je suis banquière itinérante à la NEF depuis 4 ans.
Mashup, c'est situé sur l'île de Nantes, très exactement au 63 boulevard de la Prairie au Duc, juste derrière la NEF des machines de l'île. Et c'est un brew pub, donc un restaurant dans lequel on va brasser de la bière. On sert à la fois des bières qu'on va brasser sur place, donc avec une petite brasserie de 500 litres qui est dans le lieu, et puis aussi les bières de la brasserie Tête Haute avec qui qui a fait naître le projet Mashup et qui produit une gamme de nombreuses bières, de nombreux styles de bières qu'on a la chance de pouvoir distribuer également à Mashup en canette et en pression. Tête Haute, c'est une brasserie d'insertion dans laquelle on va accompagner des personnes sur du retour à l'emploi durable à travers les métiers d'opérateur de brasserie, de logisticien. Et donc c'est un projet qui a 5 ans et qui pensait à prendre l'insertion par l'activité économique et l'amener sur des sujets qui sont collectifs, qui sont sympathiques, qui sont rassembleurs, comme la bière. Et Mashup, du coup, c'est le prolongement direct de ce projet-là en allant sur les métiers de la cuisine, sur les métiers du lien, de la rencontre et du partager un bon repas autour d'une bonne bière, toujours en portant cet enjeu d'insertion, donc d'accompagner les gens qui sont éloignés de l'emploi et de démontrer aussi que l'inemployabilité, c'est pas un fléau ou c'est pas quelque chose dans lequel on tombe dans une fatalité, mais c'est quelque chose qu'on peut abattre par justement l'accompagnement social et collectif. Mashup aujourd'hui, c'est une dizaine de salariés, dont 4 en insertion par l'activité économique, donc qui est réparti à peu près 50-50 entre une équipe de cuisiniers et cuisinières et une équipe de service en salle et au bar, qui a vocation à devenir une équipe de 15-16 personnes en étant une vraie unité de restauration qui pourra monter jusqu'à 8 personnes en parcours d'insertion au sein des métiers du coup de la cuisine et du service. Il y a un vrai enjeu pour nous de développement qui est complexe parce qu'il passe par non pas juste ramener des nouveaux clients ou ramener du monde à Mashup, mais au contraire de lisser et de faire qu'il y ait tout le temps du monde à Mashup, ce qui est vraiment quelque chose de plus complexe. C'est un projet qui repose sur 3 piliers. Un de ces 3 piliers, c'est l'alimentation durable et locale. Donc on a une charte d'approvisionnement qui est très exigeante, qui va se baser sur 90% de nos produits qui sont produits à moins de 100 km du restaurant, dans des conditions d'agriculture biologique et ou en transition ou raisonnée. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est un vrai enjeu pour nous de montrer et de démontrer qu'on va créer des lieux qui sont des lieux de transition, qui ont vocation à rester, y compris dans l'économie de demain. Et Mashup a cette particularité d'être à la fois un lieu de transition pour l'emploi, mais aussi d'être un lieu de transition pour la manière dont on pense la restauration aujourd'hui et la manière dont on forme des cuisiniers et des serveurs à l'alimentation de demain. Et donc c'est un cofinancement, aujourd'hui on est en cofinancement avec le Crédit Mutuel. Mais il y a aussi pour nous une question d'être soutenu et d'avoir plusieurs interlocutrices et interlocuteurs. C'est un bon moyen aussi de pouvoir être adapté. Et par exemple, aujourd'hui, nous, on a une banque, le Crédit Mutuel, qui est un peu plus institutionnelle, un peu plus établie, avec laquelle ça va être plus facile de discuter de monétique, de flux du quotidien. Et la NEF, qui est beaucoup plus engagée et qui nous soutient sur vraiment l'aspect, le projet social. La NEF a aussi cet ADN durable et social qui nous tient à cœur. Et donc, on est fiers aussi d'afficher ce partenariat-là.
En gros, la NEF, C'est une banque éthique, qu'on dit éthique parce que son objet depuis la création il y a 36 ans maintenant était de faire le lien entre l'épargne des citoyens et citoyennes et des projets ancrés dans la transition écologique, sociétale et environnementale. Et autre particularité, c'est que tous les projets financés par la NEF sont publiés. Donc on est la seule banque à pouvoir dire exactement qu'est-ce qui est fait des fonds, alors pas à l'euro près, mais globalement, voilà, tous les projets qu'on finance sont publiés. Il y a une transparence totale. Elle est éthique aussi puisqu'elle travaille sur du collectif, donc effectivement banque coopérative. Et donc la NEF, c'est 120 personnes, on a 20 commerciaux et les restes, donc toutes les autres fonctions, et 47 000 sociétaires, effectivement. Et en volume d'encours, donc de prêts, de projets financés, de volume de prêts encourus, on est sur 200 millions par an. La NEF soutient une vingtaine de projets à peu près sur les Pays de la Loire. Dans l'étude des projets, par exemple sur l'alimentation, on ne va pas que regarder si l'agriculteur utilise des produits phytosanitaires, mais on va aussi voir dans quel circuit de vente il s'intègre. Et du coup, on va favoriser plutôt des circuits courts, plus globalement, comment les entreprises qu'on finance se fournissent. Est-ce qu'ils sont sur des gros fournisseurs ou est-ce qu'ils cherchent plutôt des circuits courts, ça va être plutôt là-dessus, dans le fait de privilégier des projets qui ont cette démarche de pensée locale dans leur fonctionnement. Assez récemment, on a financé Énergie de Nantes, qui est une association fournisseur d'électricité sur le pays de Nantes, donc avec un aspect vraiment de relocaliser la production d'électricité, mais aussi d'agir sur la précarité énergétique, sur la sobriété énergétique des usagers. Tout à l'heure, Julien parlait de la ferme des Bois-Suzin, qui fait de l'élevage de cochons en bio. Bah, pareil, il fait partie des financements de la NEF. C'est les piliers, en fait, pour nous, du développement durable, à savoir l'alimentation, l'énergie renouvelable et locale, le social, donc tout ce qui est insertion, tout ce qui est culturel aussi, librairie, performance artistique. On est quand même dans les taux du marché, mais en l'occurrence, par exemple, si on regarde aujourd'hui, on est quand même un peu plus élevé, puisqu'on a un modèle économique qui est spécifique, puisqu'on n'a aucune activité de spéculation sur les marchés financiers, donc pas de revenus non plus issus des marchés financiers. Donc notre modèle économique repose quand même principalement sur les prêts. Et dans le futur, on va espérer dans d'autres activités comme les commissions, les flux, etc. Mais globalement, c'est ça. Donc ce qui fait qu'on est obligé d'être quand même parfois un peu plus cher pour avoir un modèle économique viable. Il y a 5 ans, quand les taux étaient extrêmement bas, on vivait pas.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti. Et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer. Dans un coin sur la planète.
Il y en a qui font une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter. Mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères. Depuis que les poètes maudits comptent leurs économies. Je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Vous avez écouté Les aventures extraordinaires d'un billet de banque par Bernard Lavillier. Après cette rencontre à envergure locale, nous quittons Julien et Marine pour rencontrer le directeur général de la nef, Yvan Chaleil, afin qu'il nous explique plus en profondeur la soi-disant plus-value sociale de la banque. L'occasion également d'aborder plus en profondeur certains éléments qui nous posent question.
Pour comprendre ce qui se passe dans les banques traditionnelles, quelles seraient les étapes de la longue chaîne? Là, vous dites, il y a l'épargne des citoyens et il y a les projets soutenus par la nef. Comment ça se passe dans le système bancaire traditionnel?
Eh bien, disons qu'il y a une différence fondamentale, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opacité et beaucoup moins de capacité à suivre le trajet de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre activité, et c'est le cas des banques classiques, devient très importante dans différents secteurs, c'est-à-dire que vous ne faites pas que du crédit, vous faites de l'investissement pour le compte de certains de vos clients, pour votre propre compte, vous vendez des assurances, vous vendez des systèmes d'alarme, vous vendez des téléphones, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous éloignez du métier originel de la banque, qui est vraiment l'intermédiation de crédit, la transformation de l'épargne en crédit, vous ne pouvez plus avoir cette transparence, parce que vous-même, vous ne savez pas exactement quel est le circuit qu'a pris votre argent. À la nef, c'est très clair, l'argent, tant qu'il n'est pas prêté, il est dans nos comptes, et quand il sort de nos comptes, c'est pour être prêté.
Alors, c'est ce qui vous fait parler de circuit court de l'argent. Oui. Pour autant, dans la manière dont sont conçus les soutiens aux projets locaux, le pot est national. L'argent des épargnants n'est pas localisé sur des régions, des grandes régions géographiques qui créeraient un circuit court au sens territorial de l'argent.
On ne manque pas d'idées, pour répondre à votre question, on ne manque pas d'idées pour faire encore plus de fléchage, pour faire encore plus de circuits courts, mais tout n'est pas toujours possible au niveau réglementaire.
Sur les critères qui vous permettent d'apprécier l'utilité écologique, sociale, culturelle d'un projet, est-ce que vous avez une charte? Est-ce que il suffit d'avoir un de ces piliers qui est utilisé? Est-ce que ça peut être une entreprise privée qui va mettre en place une politique RH vertueuse en son sein, mais qui sur le reste va être sur un circuit où une raison d'être plus traditionnelle peut faire appel à vous? Où est-ce que vous placez cette question de l'utilité sociale, environnementale?
Alors, c'est une question très vaste, je vais essayer de répondre de façon courte. Déjà, première chose sur ce que l'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un scoring. Et moi, j'y suis fermement opposé, je ne veux pas que ce soit une machine qui nous dise c'est blanc, c'est noir, c'est vert, c'est assez pauvre en carbone, donc ça se finance, c'est trop consommateur de carbone, donc ça ne se finance pas. On a vraiment une vision holistique de la chose là. Et pour répondre à votre question, on a une charte qui nous pose plutôt des questions plutôt qu'apporter des réponses. C'est de se poser la question de la réciprocité qu'on a pu avoir dans notre rencontre avec les porteurs de projet, l'adéquation entre le porteur de projet et le projet qui est porté, et l'adéquation avec ce projet et ce qui se passe dans la société, la confiance qu'on a pu avoir dans le lien. Si vous voulez, c'est plutôt ces questions-là, donc de façon assez subjective, nos banquiers itinérants sur le terrain doivent analyser cela. Et je dis de façon subjective, mais il y a quand même des éléments qui sont très forts, c'est qu'aujourd'hui, la nef, elle est vraiment dans un dans un écosystème, elle est vraiment un outil bancaire au service de l'économie sociale et solidaire. Et donc finalement, la plupart, pas l'intégralité, mais la plupart des projets qui nous viennent, qui nous sont amenés, en général, sont des projets qui sont déjà en lien avec un tissu de partenariat, avec le réseau des Biocop pour la bio, avec le réseau de Terre de Liens pour l'agriculture, avec le réseau VRAC, avec les énergies partagées ou Enercop, ou avec le mouvement des licornes. Donc si vous voulez, on a finalement des structures qui viennent et dont on peut presque a priori avoir confiance parce qu'elles font partie de cet écosystème. Et après, là où vous avez raison, c'est qu'on a aussi, on se targue aussi d'avoir une dimension un peu incluante, c'est-à-dire, pour répondre clairement à votre question, une entreprise un peu plus classique, avec peut-être une activité à minima quand même neutre pour l'environnement, il ne faut pas que ce soit nocif, mais un peu plus classique qui nous dit « moi, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer, et mon premier pas, c'est d'ouvrir mon compte à la NEF, de faire un crédit à la NEF, et ça va me permettre d'être dans une dynamique sociale plus forte, une dynamique démocratique plus forte, une dynamique écologique plus forte », eh bien là, on se pose la question, mais on peut tout à fait accompagner ces structures-là qui ne sont pas donc au top du social, ou au top du culturel, ou au top de l'écologie, mais qui sont dans une démarche de progression.
Sur les services que vous proposez à ces structures, principalement de l'économie sociale et solidaire, oui, au niveau de la NEF, on est sur des services bancaires classiques. Une association, par exemple, ou une entreprise, oui, de l'ESS qui vient vous demander des financements et que vous allez accompagner en tant que banque, aura le même type d'accompagnement de la part de la NEF que de la part d'autres établissements bancaires sur les taux d'emprunt, sur les conditions de découvert, sur du pratique.
Alors là c'est pareil, il y a plusieurs questions, parce que quand vous posez la question de l'accompagnement, là je pense qu'on est vraiment différent des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'agence, on a des banquiers itinérants sur le territoire, on va se rendre compte des porteurs, on va rencontrer les porteurs de projets sur le lieu de leur projet. Il y a une vraie analyse humaine du projet, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a finalement un taux de casse de nos projets, alors qu'on finance énormément de création d'entreprises, qu'on a un taux de casse qui est à peu près similaire aux autres banques. C'est parce que justement, dans notre accompagnement, dans notre réflexion, on fait vraiment les choses différemment. Par contre, sur votre question sur les produits et services, oui, on propose le même type de produits et services, effectivement, avec par contre une dimension un peu plus de sobriété. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour l'instant, on ne cherche pas à vendre à nos clients, à nos sociétaires, à nos prospects, d'autres choses que un compte, de l'épargne, du crédit. On leur propose vraiment d'autres choses différenciantes, mais pas d'autres produits et services dont ils n'ont pas forcément besoin. C'est peut-être parfois une dérive un peu sur les banques classiques. Et quant au taux, sur la réflexion sur les taux d'intérêt, on n'est ni les plus chers, ni les moins chers du marché. Ça fait 35 ans que c'est le cas aujourd'hui. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'a pas du tout la même façon de construire notre taux. C'est-à-dire que sur une banque classique, elle va construire son taux par rapport à ce que décide la Banque Centrale Européenne, par rapport à ce que ça coûte de se financer sur le marché, ces choses-là. Chez nous, comme je vous ai expliqué qu'on est en circuit court, c'est l'effort que sont capables de faire les épargnants quand ils viennent à la NEF en disant ben « moi, je ne demande pas forcément 3% de rémunération, j'accepte de n'avoir que 1 ou que 0,5 parce que ce qui compte, ce n'est pas que je sois le plus riche du monde avec mes intérêts, mais par contre que je sache à quoi sert mon argent. » Eh bien, cet effort que eux sont capables de faire sur l'épargne, nous, on est capable de le reporter sur le crédit. Et du coup, ça fait qu'on arrive à avoir des crédits qui sont dans le marché, alors même qu'on n'a pas du tout les mêmes dynamiques et les mêmes mécanismes de financement que les autres banques.
Est-ce que vous avez quelques données sur justement les volumes qui ont été brassés, le développement de l'activité de la NEF, et puis éventuellement en termes de mesures d'impact ?
Alors, peut-être quelques chiffres significatifs. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on se compare aux banques classiques, évidemment, la NEF, c'est tout petit. Donc, je ne vais pas commencer à dire qu'on ressemble aux grands groupes bancaires français de par la taille. Par contre, en termes de dynamique, les banques françaises, on les compare en général par la taille de leur bilan. C'est le bilan bancaire, donc l'ensemble des ressources ou l'ensemble des actifs. Et nous avons atteint en 2022 1 milliard d'euros, alors que 3 ans avant, nous étions à la moitié, à 500 millions. Ça veut dire qu'on a doublé notre bilan bancaire, donc ça veut dire doubler nos interventions de crédit, doubler la collecte d'épargne, tout ça, en seulement 3 ans. Donc ça a été une dynamique très très forte. Ensuite, en 2022, nous avons aussi entrepris de lever des fonds justement pour pouvoir asseoir notre projet d'indépendance. Et on a réussi à lever 25 millions d'euros de capital auprès des citoyens et des entreprises et des quelques institutionnels en 2 ans, alors qu'on espérait lever 30 millions en 3 ans. Donc on est vraiment en avance sur notre tableau de marche. Et du coup, effectivement, on peut dire aujourd'hui que sur un bilan d'un peu plus d'un milliard d'euros, on a plus de 800 millions d'euros qui sont employés en crédit. Donc ça veut dire qu'on a en 75 et 80% de toute la collecte qu'on a qui est réemployée en crédit. Ça, c'est des choses qu'aucune banque ne sait faire. En général, le crédit, c'est à peu près, ça représente 40, 45, parfois 50% de l'activité d'une banque. Nous, on est aux 3/4, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le projet originel de ce que fait une banque.
Et que font, voilà. Et du coup, les 20% restants, les 20 à 30% restants?
Pour la nef?
Oui.
Alors, il y a toute une partie, comme vous vous en doutez, qu'on est obligé de conserver en trésorerie pour la liquidité, puisque c'est les clients chez nous, ils ont des livrets, des comptes à terme, des choses comme ça, et ils peuvent tout à fait demander leur remboursement du jour au lendemain. Donc, on est obligé de conserver un matelas de liquidité assez important. Et il y a une autre petite partie qui est une obligation réglementaire d'avoir des obligations d'État. En l'occurrence, on a des obligations d'État français pour un petit peu moins de 100 millions d'euros. Ça, c'est une obligation réglementaire. Toutes les banques en France doivent avoir un minimum de X% de leur bilan dans ces actifs-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on répond à l'obligation strictement. Le reste, c'est de l'argent qui est dans nos comptes en attendant d'être prêté. Et sinon, la grande majorité est prêtée.
Donc la nef est une coopérative, mais ça c'est revendiqué aussi par tous les établissements bancaires mutualistes hein, en France qui sont nombreux, qui se réclament aussi de cette logique collective. Alors là, combien y a-t-il d'épargnants, de sociétaires au sein de la nef? Et puis quelle différence en termes de vie coopérative avec des établissements bancaires mutualistes?
Tout à fait. Mais merci pour la perche tendue, puisque c'est effectivement le quatrième pilier dont on parlait. C'est effectivement le principe de coopérative et de démocratie. Donc nous sommes une coopérative depuis 1988. Nous avons aujourd'hui presque 90 000 clients, dont 50 000 sont également des sociétaires, donc copropriétaires de la coopérative. Donc certains sont sociétaires et clients, d'autres ne sont que clients, et d'autres ne sont que sociétaires d'ailleurs. Et on est très fiers de cela, puisque nous avons une vie coopérative et une vie démocratique qui est aujourd'hui très dense, très active. Et finalement, pour nous, c'est ça le garde-fou. Par rapport à tous nos projets de développement, ces choses-là, on sait que notre vie démocratique doit être en corollaire développée de la même façon. Et les exemples, c'est donner la place à nos sociétaires dans notre coopérative. Je prends 2 exemples. On vient de faire nos 2 dernières assemblées générales. On a mobilisé les sociétaires pour leur demander leur avis, pour co-construire une résolution avec eux et que ce soit eux qui votent ensuite. En 2023, c'était une résolution sur l'indépendance philosophique, politique, spirituelle de la nef. C'est les sociétaires il y a eu plus de 2000 sociétaires qui ont répondu à notre appel, qui ont fait des propositions. Ça a amené un congrès, des groupes de travail et tout ça. Donc une matière très très importante qu'aujourd'hui on utilise. Et c'était assez génial. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et l'an dernier, on a remis cela, et il y a eu près de 2000 sociétaires également qui ont participé, sur la question du partage de la valeur. On a dit aux sociétaires, c'est vous les copropriétaires de la nef. La nef va recommencer à faire des bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces bénéfices? Est-ce que vous voulez que ça reste dans la coopérative pour financer de nouveaux projets? Est-ce que vous voulez des dividendes? Est-ce que vous voulez que ça...
Et qu'est-ce qui a été tranché?
Ce qui est assez génial, c'est que les sociétaires ont voté à l'écrasante majorité pour que l'argent reste dans la coopérative pour renforcer le projet, pour assurer justement cette autonomie et cette indépendance de la nef. Ensuite, que ça puisse servir au développement de la communication, de la vie coopérative, des salariés, quitte à ce qu'on réduise un peu les bénéfices. Et enfin, s'il reste un petit peu à la fin, pour avoir quelques dividendes, parce que quand même, il y a eu un peu d'inflation ces dernières années. Et donc ça, ce sont les sociétaires qui ont décidé ça. C'est eux qui ont co-construit la résolution et c'est eux qui ont voté ensuite. Et donc quand vous avez ça, en tant que dirigeant, moi je peux parler en tant que dirigeant, c'est assez génial, parce qu'on a des sociétaires qui sont vraiment derrière le projet et qui pensent avant tout au projet et pas au fait de devenir riche avec les dividendes de leur départ social qu'ils détiennent dans la coopérative. Donc cette démocratie, cette vie coopérative, elle est très forte, très ancrée, et je pense que c'est ça qui fait la différence avec ce que vous mentionniez au début, qui sont les banques coopératives d'aujourd'hui, qui sont encore coopératives dans le nom, mais qui n'ont plus vraiment cette vie coopérative qui permet de faire avancer leur projet.
Venons-en maintenant, Ivan Chalel. Je rappelle toujours que vous êtes directeur général de la NEF. Au Big Bank, à la campagne que vous avez menée ces dernières années pour pouvoir devenir un établissement bancaire à part entière, est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ce dont il s'agissait et ce que ça vous ouvre aujourd'hui comme opportunité ?
Oui. Alors, le Big Bank, c'est effectivement le fait de dire la NEF, c'est une coopérative, on vient d'en parler. Elle agit au quotidien en toute autonomie, mais comme il y a 35 ans quand on s'est créé, les régulateurs ne voulaient pas qu'un petit établissement existe tout seul, eh bien nous étions adossés, alors c'est un terme un peu barbare, désolé, mais on avait finalement en gros un garant, une caution, comme quand vous prenez votre premier appartement et qu'on vous demande la caution des parents, c'est un petit peu la même chose, on avait un garant qui était le crédit coopératif. Le crédit coopératif faisant partie du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, on était finalement indirectement dans cette espèce de mastodonte et on ne s'y reconnaissait plus. Nous, on a eu notre croissance, on est une banque éthique et on avait envie de faire nos projets de notre côté. Et donc, il y a maintenant 4 ans de cela, on a acté une séparation avec le crédit coopératif. Et ensuite, on a un petit peu cravaché auprès du régulateur pour dire « nous, maintenant, on veut vraiment notre autonomie, on veut notre indépendance, on veut être seul responsable de ce qu'on fait, on veut pouvoir créer les alliances qu'on veut et tout cela ». Et donc, ça a été une lutte un peu dure parce que, comme je le disais tout à l'heure, en France, il existe 6 grands groupes bancaires qui font 90% de l'activité et ils n'ont pas tellement envie qu'une petite banque, qui plus est alternative, soit dans la place. Nous, on s'est battu à force de persévérance et notamment, en plus de nous, en tant que salariés, dirigeants qui nous sommes battus, on a effectivement emmené avec nous les citoyens. On a dit, on va faire ce mouvement du Big Bang pour montrer d'une part qu'une autre banque est possible et d'autre part que tous les citoyens attendent une chose, c'est que la banque éthique soit indépendante. Et donc, on avait fixé, comme je vous le disais, un objectif de 30 millions d'euros de collecte de capital sur 3 ans. Et au bout de 2 ans, donc au moment où on a obtenu notre sésame, puisque nous l'avons obtenu cet été, eh bien, nous avions déjà levé plus de 25 millions, c'est-à-dire qu'on était vraiment en avance sur nos objectifs, grâce à plusieurs milliers de citoyens, mais aussi d'entreprises, mais aussi d'autres banques alternatives qui ont été mettre des sous chez nous. Et donc, voilà, on a finalement eu un levier très important auprès des autorités en disant ben voilà, regardez ce qu'il y a derrière nous. Et c'est sûrement un des aspects qui a fait qu'à un moment, la Banque de France a dit oui.
Oui, excusez-moi, donc la Banque de France a dit oui, mais je crois que vous alliez poursuivre. Donc oui. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas porter auparavant ?
Alors, aujourd'hui, donc ce qu'on veut dire, c'est que maintenant, on est dans la saison 2 de la banque. Là, on va faire la banque éthique du 21e siècle, on va se développer. Dans ce développer, il y a effectivement il y a quelques gros cailloux, si je puis m'exprimer ainsi. C'est, par exemple, on le disait tout à l'heure, on a un compte pour les professionnels et les entreprises et les associations, mais il n'y a pas de carte bancaire associée au compte parce qu'on était bloqué politiquement par ça depuis 5 ans. Eh bien, nous avons lancé au premier jour où nous étions indépendants, autonomes officiellement, on a lancé le projet pour ajouter une carte bancaire pour les pros, et donc ça verra le jour dans quelques mois. Pareil, les citoyens nous ont dit « la NEF, moi, on vous adore, on vous considère comme l'endroit où on peut mettre notre épargne, c'est génial, c'est tout ça, mais il n'y a pas de compte ». Donc, tant qu'il n'y a pas de compte, on peut difficilement vous considérer vraiment comme une banque. Eh bien, on a pris effectivement l'engagement de proposer un compte de paiement aux citoyens qui le souhaitent dans les mois ou, on va dire, dans l'année qui vient. Ça, c'est des choses qu'on était contraints de ne pas faire.
Alors là, ça veut dire que les particuliers vont pouvoir ouvrir des comptes courants et avoir des moyens bancaires à moyen terme. Dans combien de temps ?
Le combien de temps, c'est difficile de répondre parce que ça veut dire qu'il faut que nous, on construise, et on a déjà évidemment commencé le travail, il faut qu'on construise un partenariat. Ce qu'on a envie de faire, c'est de pas faire le compte courant classique parce que ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, notre agrément est limité sur cette partie-là. Par contre, ce qu'on veut proposer, c'est effectivement quelque chose d'efficace, un compte avec une carte. Vous pouvez domicilier vos salaires dessus, faire des virements, des prélèvements, aucun problème. Vous avez une carte bancaire. Et pour ça, on cherche, et on a quelques pistes ouvertes encore, on cherche une alliance avec une technologie existante En gros, on prend le meilleur de la technologie, on le met avec le meilleur de l'éthique, et avec ça, on fait un compte de paiement à l'état de l'art d'un point de vue application mobile, site internet, tout ça, et en même temps, dont tous les fonds vont, tous les flux d'argent vont de toute façon aller vers la NEF pour qu'elle finance les projets qui ont du sens.
Quelle différence avec un compte courant ?
La différence avec un compte courant, c'est qu'on proposera a priori pas de chéquier, pas de compte chèque, et que c'est un compte qui ne, a priori ne proposera pas de découvert. C'est les deux différences principales. Pour le reste, c'est un compte qui fonctionne comme n'importe quel autre, compte bancaire.
Justement, on voit émerger des solutions de banque en ligne qui se revendiquent écologiques oui. ou avec des. Comment est-ce que vous considérez ces propositions ?
Eh bien, ce ne sont pas des banques. Donc, c'est un terme qui déjà est. Ne devraient pas être utilisés. On les a souvent appelés néobanques et en fait, c'est même le régulateur a dit que théoriquement, personne ne devait utiliser ce mot-là parce qu'en fait, ce ne sont pas des banques. Donc, elles n'ont pas d'agrément bancaire, elles sont seulement des agents d'autres banques. Et donc, même si elles se targuent d'être des structures, parce qu'on ne peut pas les appeler banques, avec un compte écologique, en fait, il n'y a pas vraiment de compte écologique puisqu'il n'y a pas de maîtrise du circuit de l'argent. C'est-à-dire que ces fonds-là, qui sont que vous pouvez avoir quand vous ouvrez votre compte dans ce type de structure, eh ben en fait, il ne va pas pour financer des projets écologiques, sociaux, culturels. Il retourne dans une banque classique, qui elle-même ensuite va faire évidemment des projets écologiques, mais aussi des projets classiques, un peu de tout en fait. Et donc c'est un peu galvaudé comme terme, si vous voulez. Donc c'est très beau que ça existe. Si ça permet d'éveiller un petit peu la conscience des citoyens. Par contre, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas ça qui change le monde, c'est pas ça qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est les 6 000 milliards d'épargne qui sont en France aujourd'hui et qui doivent absolument financer d'autres projets que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Et c'est cette épargne-là qu'il faut qu'on oriente et il faut qu'ensuite des établissements comme la NEF ou d'autres, j'espère, dans le futur, aient la capacité de financer, de transformer cette épargne en des financements sur des projets qui ont du sens.
Vous avez écouté Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet. Nous vous laissons maintenant avec 5 minutes de l'émission Pensée locale, produite en partenariat avec la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Juste après, vous écouterez Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet.